lire les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Bonjour, Christian de l'Union syndicale solidaire, donc pour cette rubrique mensuelle animée par l'Union syndicale solidaire dans le cadre des chroniques syndicales. Donc aujourd'hui, contrairement aux émissions précédentes, on n'a pas un thème central et des invités pour illustrer ce thème. Donc je vais un peu dresser un panorama sur l'actualité syndicale, sociale. Donc on va parler... Alors, sans originalité, j'allais dire, mais de la question de la contre-réforme des retraites, puisque c'est pour le coup de l'actualité brûlante, et j'espère qu'elle sera effectivement très très chaude comme actualité sociale dans les tout prochains jours ou toutes prochaines semaines. Donc, on va parler donc de cette contre-réforme des retraites et surtout de la mobilisation sociale contre cette contre-réforme, donc retraite. On va revenir rapidement sur un sujet qu'on avait évoqué lors d'une émission du mois d'octobre avec les camarades grévistes sans papier de Chronopost dans le Val-de-Marne, à Alfortville, pour donner un peu des informations sur ce mouvement qui continue. Dans la même ordre d'idée, au mois de novembre, on avait parlé de la solidarité syndicale avec la résistance populaire ukrainienne contre... l'attaque impérialisme de l'armée de Poutine. Donc là aussi, faire un petit point d'informations sur ce qui continue à se faire, puisque je pense que malheureusement tout le monde le sait, la guerre continue en Ukraine. Et puis quelques points d'informations sur des sujets divers, sur le service national universel, qui est, je sais, par ailleurs traité dans d'autres émissions dans le cadre de Radio Libertaire, mais je pense que c'est aussi important que dans Chronique syndicale, puisque, bon, je détaillerai tout à l'heure, mais puisque des organisations syndicales sont partie prenante de collectifs contre le service national universel, je pense que c'est important que ça soit aussi traité dans cette émission. Je parlerai aussi rapidement de la grève, alors c'est plus tout à fait de l'actualité, ça l'a été au mois de décembre, de la grève des contrôleurs et contrôleuses SNCF, avec notamment sur la partie un peu de débat qu'il y a eu sur, bon, dans la grande presse, on en a fait beaucoup, sur les syndicats ont été débordés, et je pense que c'est pas inintéressant de revenir sur cette question, même si ça mériterait sûrement de faire plus longuement que je vais le faire. Et puis, si on a le temps, je ferai un point aussi sur lequel on aura l'occasion de revenir, je pense, le mois prochain ou le suivant, sur le salon anticolonial qui se tiendra au mois de mars à Paris pour ce qui est du salon, et la semaine anticoloniale qui donc prolonge ce salon avec des initiatives à Paris, en région parisienne, mais aussi dans les autres régions de France. Et là aussi, le syndicalisme, parce que l'anticolonialisme fait partie des activités syndicales, en tout cas pour le syndicalisme tel qu'on le conçoit nous, le syndicalisme est concerné. Et on terminera par quelques informations brèves sur des publications syndicales. Je vais commencer peut-être sur la question des retraites. Alors c'est à la fois de l'actualité, évidemment, avec une nouvelle contre-réforme, mais j'allais dire c'est quelque chose de récurrent, puisque ça fait quand même 30 ans maintenant, hein, qu'il y a des contre-réformes successives annoncées par les gouvernements successifs, que ce soit des gouvernements d'ailleurs dits de gauche ou dits de droite, hein. Il y a eu les deux sur annonçant des contre-réformes à peu près du même type sur ce sujet de retraite. Alors à chaque fois, évidemment, il s'agit, selon l'expression consacrée, de sauver notre système de retraite, de sauver nos retraites, etc. En réalité, il s'agit évidemment d'un morceau de la lutte des classes, et il s'agit, à chaque recul, effectivement, il faut le dire, quand il y a des défaites effectivement de notre camp social, et d'une augmentation des profits pour le patronat, pour le dire assez crûment. Je disais 30 ans puisque c'est en 93 que il y a eu, on peut dire, la première réforme d'envergure, hein, avec les mesures, donc ce qu'on a appelé la contre-réforme Balladur à l'époque, qui concernait uniquement le régime général de retraite, c'est-à-dire l'ensemble du secteur privé, hein, pour aller vite, donc, et surtout qui ne concernait pas les fonctionnaires et les régimes dits spéciaux, la SNCF, la RATP, EDF, GDF et quelques autres encore à l'époque. Et ce qui, malheureusement, le fait que cette contre-réforme ne concernait que le secteur privé, même si c'était il y a 30 ans, et même si le syndicalisme était un peu moins affaibli qu'aujourd'hui, il l'était déjà dans le secteur privé, il l'était déjà sur son aspect interprofessionnel, et malheureusement, cette contre-réforme qui ne concernait que le secteur privé, eh bien, est passée relativement facilement, il faut le dire, à l'époque, avec donc cette première augmentation du nombre de trimestres qu'il fallait avoir cotisé pour obtenir une retraite à taux plein, puisque c'est bon l'époque où on est passé des fameuses 37 années et demie aux 40 ans de cotisation. Je dis fameuse 37 annuités et demie parce que c'est effectivement, pour un certain nombre d'organisations syndicales, ça reste le socle revendicatif, le retour à ces 37 ans et demi de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein. Et c'est bon peut-être de rappeler pourquoi on parle des 37 ans et demi, parce que 30 ans après, il est clair que pour toute une génération. Je pense que voilà, la mention. Enfin, je pense qu'il y a toute une génération aujourd'hui qui se demande pourquoi on parle de 37 ans et demi et pas 36 un quart ou 38,2 quoi. Et donc voilà, c'est 37 ans et demi, c'est effectivement ce qui existait avant cette première vague de contre-réforme en 93. Ensuite, il y a eu y a eu quand même un événement notable dans le paysage syndical, social, politique en France, c'est 95 avec le projet donc de contre-réforme Juppé. Bon, je ne vais pas m'étendre là évidemment sur le mouvement qu'il y a eu en novembre-décembre 95, qui a eu d'ailleurs, accessoirement, qui a eu pour conséquence la création de très nombreux de très nombreuses structures syndicales qui se sont dénommées Sud dans un certain nombre de secteurs professionnels dans lesquels ça n'existait pas jusque-là, et donc qui est un peu à l'origine de ce qu'est aujourd'hui l'Union syndicale solidaire. Mais surtout, ce mouvement de novembre-décembre 95 qui a quand même partiellement fait reculer le gouvernement à l'époque, je dis bien partiellement parce que faut pas non plus embellir avec les années ce qui peut être, hein, des victoires partielles du mouvement syndical, mais il faut pas non plus les embellir. Mais en tout cas, le coup d'arrêt que ça a marqué et la résistance très forte qu'il y a eu, le mouvement interprofessionnel national de grève reconductible dans un certain nombre de secteurs et les manifestations de masse qui ont duré plusieurs semaines, ça a aussi marqué un coup d'arrêt sur justement le cycle de contre-réforme sur les retraites qui avait été lancé en fait 2 ans avant avec ces mesures baladures sur le régime général, puisque l'objectif c'était évidemment de généraliser et d'accentuer ce qui avait été annoncé en 93. Et du coup, il y a eu évidemment des suites, tout le monde le sait, mais on peut dire qu'on passe quand même à 2003 quoi, ensuite, hein, 2003 avec réforme dite Fillon, avec la mise en place, alors qui s'attaque là essentiellement, en fait, on passe à une étape suivante, c'est après le régime général en 93-2003, c'est les fonctionnaires, en fait, avec la mise en place de la décote, le passage à 40 annuités pour avoir une retraite à taux plein pour tous, y compris avec une programmation de cet allongement du nombre d'annuités à 41. Quoi. Je vais vite ensuite parce que malheureusement les contre-réformes s'enchaînent, mais je note, puisqu'on a dit régime privé, on a dit fonctionnaire, et 2007, c'est les régimes dits spéciaux, hein, SNCF, RATP, EDF, GDF, etc., qui sont dans le collimateur du gouvernement Sarkozy à l'époque, avec qui aboutissent, malgré une grève forte, notamment à la SNCF, qui aboutissent, avec l'accord d'un certain nombre d'organisations syndicales malheureusement, au report de l'âge de départ en retraite, qui était une mesure très 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 symbolique pour les salariés de ces entreprises, SNCF, RATP, etc. On a ensuite 2010, hein, sous réforme Worth, avec le passage à 62 ans. 2014, la contre-réforme Touraine, qui prévoit d'augmenter d'un trimestre tous les 3 ans pour arriver maintenant à 43 ans, pour 43 ans de cotisation pour une retraite à taux plein. On le voit. Tout ça, c'est quoi? Bah, tout ça, c'est augmentation de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein, allongement de report de l'âge légal pour pouvoir bénéficier de la retraite. Et donc on est aujourd'hui dans une nouvelle étape avec le projet Macron-Borne, puisque on en serait maintenant un report de l'âge légal à 64 ans, avec accélération de l'augmentation du nombre de trimestres, puisqu'on aurait encore une fois plus d'un trimestre par an d'augmentation, la disparition annoncée des régimes spéciaux qui demeurent. C'est en fait aujourd'hui essentiellement RATP, Banque de France, EDF, GDF. Voilà un certain nombre d'autres mesures additionnelles, mais on est toujours évidemment dans cette même logique. Le vrai problème de tout ça, c'est quoi ? C'est, alors, je le dis, côté gouvernemental, côté patronal, et côté de celles et ceux qui accompagnent ces contre-réformes successives, on est toujours dans le slogan « Sauvons le régime de retraite ». En vrai, évidemment, ils s'en foutent. Enfin, notre régime de retraite, c'est vraiment pas leur souci. La question, c'est la répartition de la richesse collective qui est produite, hein, qui est par ailleurs produite par ceux à qui s'appliquent ces contre-réformes et qui n'est pas produite par celles et ceux qui décident ces contre-réformes, hein, pour, faut quand même le rappeler. Mais voilà, juste un chiffre avant de terminer un peu cette présentation, pour dire quand même que aujourd'hui le produit intérieur brut, qui reste une référence, alors qui par ailleurs est totalement discutable puisque ça prend pas un certain nombre de dimensions de ce qui est la vraie richesse collective, et notamment sur tout ce qui concerne l'environnement, l'écologie, etc. Mais on peut quand même signaler que voilà, le produit intérieur brut en France, si c'est la référence qu'on prend, en fait, le nombre de retraités ne cesse d'augmenter, et la part du produit intérieur brut qui est destiné aux retraites ne cesse de baisser. Et ça, c'est pas quelque chose d'inéluctable. Ce sont des choix politiques, ce sont des choix effectivement de société. Et il y a bien évidemment d'autres choix, y compris si on reste dans ce cadre-là de discussion à l'intérieur effectivement d'un budget, etc. Parce que il y a tout ça mériterait d'autres discussions, et on pourrait parler d'une économie qui soit totalement basée sur les besoins collectifs de la population. Mais y compris dans le cadre, j'allais dire, aujourd'hui tel qu'il est, il y a la possibilité, bien évidemment, de faire des choix inverses, et de simplement constater que y a un besoin de consacrer un peu plus de la part de la richesse que nous produisons aux retraites, aux retraités, et ça, c'est bien évidemment tout à fait faisable. On le voit par rapport aux profits qui sont faits par de nombreuses boîtes, et je vais y revenir après, parce que la question, bien évidemment, qui doit nous agiter le plus, c'est comment on fait, et comment on fait pour s'opposer efficacement à cette nouvelle contre-réforme des retraites.
Dans ce monde qui saigne aux blessures hémophiles, pour apaiser la haine aux drapeaux imbéciles, dans ce monde frontière, aux murs si hauts, de nos langues étrangères, guérissons tous nos maux. Parlons-nous, parlons-nous. Dans ce monde animal, condamné au silence de nos cordes vocales, réduisons les distances. Dans ce monde trésor, ces vies qui nous ressemblent, des mots comme de l'or, à partager ensemble. Parlons-nous, parlons-nous, parlons-nous. Rien de tout, un rêve fou, ça change tout, parlons-nous. De rien de tout, un rêve fou, ça ça change tout. Parlons-nous. Dans ce monde qui pleure quand il manque de l'eau, au marais de nos cœurs, laissons monter nos mots. Dans ce monde à l'étroit où c'est chacun sa chance, réchauffons de nos voix nos belles différences. Parlons-nous. Un rêve fou, ça change tout. Parlons-nous de rien de tout. Un rêve fou, ça change tout. Parlons-nous.
C'est nous baisser les émotions pour apaiser la haine. C'est notre monde, c'est aussi haut de nos langues étranges à guérir. Ce monde est sur la tête d'un au silence de nos plans de vocables. La guerre est distante, de trésors, ces trésors nous ressemblent et au fond de l'or à partager ensemble.
Frasiac, parlons-nous. Vous êtes à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4.
Alors, je le disais tout à l'heure dans la présentation de la nouvelle contre-réforme, au-delà des mesures, donc report de l'âge légal, augmentation du nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein, disparition des régimes dits spéciaux qui existent encore. Il y a aussi quelques mesures annoncées qui sont de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler des contre-feux, des quelques mesures qui sont destinées à montrer un côté pseudo-positif de cette contre-réforme. Et notamment, il y a là aussi, médiatiquement, c'est pas mal repris, l'histoire de l'engagement d'un minimum de pension à 1200 euros. Alors bon, déjà on peut rappeler un certain nombre d'annonces de ce type-là hein, du gouvernement en place, qui par exemple sur le personnel enseignant, enfin sur les enseignants et enseignantes, avait annoncé un certain nombre de mesures qui en fait devaient s'appliquer, qui finalement sont de report en report, sont toujours pas appliquées. Mais bon, j'allais dire, c'est malheureusement, on le sait, une habitude. Hein, les promesses gouvernementales, on sait ce que ça vaut. Mais deux minutes pour revenir quand même sur ces 1200 euros. Largement repris, d'une part, dans le projet tel qu'il est, ça ne concerne que les futurs retraités, n'essayant pas les personnes retraitées déjà aujourd'hui, donc cet engagement ne vaut que pour les futurs retraités. On peut faire le pari que cette dimension-là, d'ailleurs, saute dans la série. on fait semblant d'avoir ce qu'ils appellent du dialogue social, et donc on fait semblant de faire des concessions, et que l'engagement des 1200 euros, après quelques manifestations massives et peut-être quelques jours de grève, fera l'objet de mesures nouvelles, entre guillemets, annoncées par le gouvernement pour dire que ça s'applique à tout le monde. En tout cas, aujourd'hui, c'est uniquement un engagement pour les futurs retraités, et surtout, c'est 1200 euros pour celles et ceux qui auraient ce qu'on appelle une carrière pleine. C'est d'ailleurs le nombre d'annuités qui, par ailleurs, ne cesse d'augmenter, et ça aussi, ça restreint bien évidemment le nombre de personnes concernées. Et puis, surtout, enfin, fondamentalement, voilà, on parle de 1200 euros par mois, quoi. Enfin, y compris pour un nombre de retraités limités, puisqu'encore une fois, un certain nombre ne serait pas concerné par cette mesure. Mais voilà, c'est 1200 euros par mois. Et je pense que chacun et chacune se voit comment on peut ne pas vivre avec 1200 euros par mois. Et j'ajoute que concernant les reports successifs d'âge de départ en retraite, là aussi, il y a la question des inégalités. Alors, il y a les inégalités, évidemment, entre hommes et femmes, puisque notamment la constitution de la carrière n'est pas du tout la même, compte tenu des inégalités de genre qui existent, qui continuent d'exister dans la société. Donc, cette question des inégalités entre hommes et femmes est absolument pas traitée, bien évidemment, par cette contre-réforme, et ça continuera. Les inégalités sociales, tout bêtement, tout simplement, puisque aujourd'hui, à 62 ans, 25% des plus pauvres sont décédés. Donc la question de la retraite ne se pose pas. Et à 64 ans, ce taux est déjà de 30%. Donc voilà un peu quand même quelques chiffres qu'il faut rappeler et qu'il faut dénoncer aussi sur la propagande du gouvernement. Alors je le disais, la question essentielle maintenant, c'est celle de la mobilisation, collective, la mobilisation sociale. On le sait, il y a l'annonce donc d'une journée, une première journée nationale de mobilisation interprofessionnelle, le jeudi 19 janvier, à l'appel notamment d'une intersyndicale qui rassemble CFDT, CGT, FO, CGC, CFTC, UNSA, Solidaire et FSU, en sachant qu'un certain nombre d'autres organisations syndicales qui ne sont pas dans ce qu'on appelle l'intersyndicale nationale appellent également à cette journée de manifestation et de grève du 19 janvier. Je parle bien d'une journée de grève et de manifestation, puisque c'est aujourd'hui l'appel qui existe. C'est bien sur le 19 janvier, avec une ouverture qui existe, y compris dans le cadre de l'intersyndicale, sur possibilité de reconduire au-delà du 19. La question, c'est d'aller sur cette question de la reconduction, d'une grève reconductible, d'une grève générale, etc. C'est bien évidemment de dépasser le seul seuil du slogan pour effectivement en faire une réalité, parce que on le sait ça d'expérience, et notamment sur la question des contre-réformes retraite, les manifestations successives, y compris si elles sont relativement massives, ce qui n'est pas d'ailleurs gagné d'emblée, hein, bien évidemment, mais les manifestations, ça ne suffit pas pour gagner sur des rapports de force qui sont aussi importants et face à ce qui nous est opposé. Et donc la question, c'est celle de la grève. Et la question de la grève, elle se joue pas dans les réunions intersyndicales nationales ou même d'ailleurs départementales. La question de la grève, elle joue dans par définition dans les entreprises avec les équipes syndicales de base, et on part là de la réalité qui est celle qu'on connaît, et avec les faiblesses du mouvement syndical aujourd'hui, son absence ou sa faiblesse très forte dans un certain nombre d'entreprises, notamment les petites entreprises, mais pas simplement d'ailleurs les petites entreprises, avec les difficultés qu'on a sur la prise en charge, y compris dans les plus grosses entreprises, les difficultés de prise en charge syndicale de l'ensemble des salariés qui travaillent sur un même site, hein, toute la question notamment de la sous-traitance qui est parfois est souvent bien prise en charge par les équipes syndicales qui font, pour le dire simplement, pas de différence entre les statuts des salariés qui travaillent sur un site et qui donc prennent en charge effectivement l'ensemble des salariés, organisent l'ensemble des salariés à égalité, mais il y a aussi des secteurs où les divisions demeurent et ça ne facilite pas évidemment les mobilisations de masse. Mais en tout cas, ce qu'il faut aujourd'hui se poser comme question dans les entreprises, et c'est ce que font les équipes de l'Union syndicale solidaire, mais bien évidemment plein d'autres aussi à travers le pays, c'est construire cette grève reconductible qui est nécessaire. Et ça passe par un certain nombre de pratiques de démocratie syndicale, de démocratie ouvrière, notamment la question des assemblées générales qui doivent redevenir au centre de la pratique syndicale dans des moments comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Et de ce point de vue, on l'a vu sur un certain nombre de mouvements nationaux, interprofessionnels de ces dernières années, y compris dans des secteurs où il y avait depuis des années, avait été établi cette pratique démocratique des assemblées générales, il y a eu des reculs. Alors il y a eu des reculs qui sont inhérents liés à l'évolution de la société. C'est clair qu'il y a, et là je vais caricaturer, mais c'est clair qu'il y a 50 ans, des travailleurs et travailleuses qui voulaient savoir si la grève était reconduite dans leur entreprise, bah, il fallait qu'ils viennent à l'Assemblée Générale parce que il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens d'être informés en temps direct. Aujourd'hui, évidemment, avec le système de communication qui est celui qu'on a, cette possibilité est complètement décuplée et donc on a une tendance à avoir une espèce de délégation de pouvoir pour les assemblées générales qui malheureusement du coup ne sont plus vraiment des assemblées générales mais des assemblées en fait où les organisations syndicales interviennent, le peu de travailleurs et travailleuses qui sont là décident de la reconduction ou pas, mais il n'y a pas tout cet aspect de démocratie avec l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Et quand je dis ça, je dis pas que ça n'existe plus, mais en tout cas il y a eu des reculs et c'est un des trucs sur lesquels il faut évidemment que le mouvement syndical retrouver les conditions d'assemblée générale massive avec des gens qui se retrouvent entre collègues de travail, ce qui permet effectivement de libérer la parole aussi, parce que c'est ce qui est aussi important dans ce type de mouvement, c'est que effectivement on se retrouve entre gens qui se connaissent, parce qu'il faut effectivement avoir que les gens aient confiance, osent parler dans les assemblées générales sous la forme, quelle qu'elle soit la forme adoptée. Donc voilà, je pense que c'est effectivement un des sujets majeurs là dans les prochains jours, c'est construire cette grève dans les entreprises. Pour ça, la question de l'unité syndicale, donc qui est aujourd'hui affichée et qui est extrêmement large, qui en réalité peut pas être plus large puisque toutes les organisations syndicales sont partie prenante de l'appel aux manifestations et à la grève le 19 janvier. Cette question de l'unité syndicale, on le sait, elle va évidemment être au cœur d'un certain nombre de discussions. C'est un élément de mobilisation indéniable. Ce qu'on pense, nous, à l'Union syndicale solidaire, c'est qu'évidemment, ça doit pas être un piège qui amène, sur le plus petit dénominateur commun, notamment s'il y a des pseudo-contre-propositions à un moment donné du gouvernement, mais qui ne remettent absolument pas en cause le fond de la réforme. Bon, mais ça, on sait pas évidemment comment ça évoluera. En tout cas, faut aujourd'hui se baser sur ce qui existe. Une unité syndicale la plus large possible, un appel à la grève, aux manifestations, un appel à construire un mouvement de grève reconductible. Et puis surtout, je pense qu'il faut redire qu'il ne s'agit pas de questions techniques sur l'avenir des retraites, mais bien de choix de société, de choix politiques. Et pour ça, deux chiffres. Et je pense que vraiment, il faut redire ces choses-là. Le gouvernement explique qu'il fait cette contre-réforme parce que elle lui permettra de dégager 8 milliards d'euros par an et que c'est absolument indispensable, donc, comme ils le disent, à sauver nos retraites. Donc il s'agit de 8 milliards d'euros par an, et pour ça il faut reculer l'âge de la retraite, augmenter le nombre d'annuités pour une retraite à taux plein, etc., etc. 8 milliards d'euros par an. En 2022, les entreprises du CAC 40, donc les seules entreprises du CAC 40, hein, ont distribué 80 milliards d'euros à leurs actionnaires. Donc je pense que voilà, on voit de quoi on cause. On recule l'âge de la retraite, on augmente le nombre d'annuités pour celles et ceux qui bossent, soi-disant pour récupérer 8 milliards d'euros pour soi-disant sauver nos retraites. D'un autre côté, sur le même délai, sur un an, les entreprises du CAC 40 distribuent 80 milliards d'euros, c'est 10 fois plus à leurs actionnaires. Et encore une fois, j'insiste, là, on parle uniquement de la distribution des dividendes et uniquement des entreprises du CAC 40. Donc voilà, la question n'est vraiment pas une question, j'allais dire, de richesse collective dans le pays, mais bien de la répartition de cette richesse. Et donc voilà. Donc, pour conclure sur cette question-là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de notre émission pour le rappeler, parce que c'est largement dit et redit, mais sur Paris, rendez-vous jeudi 19 janvier, 14h à République, pour une première manifestation la plus massive possible, parce que c'est aussi quelque chose qui compte pour lancer un mouvement qui dure, un mouvement de masse, un mouvement reconductible, un mouvement qui soit ancré dans les entreprises.
Alors Jeff Bezos, loin de la Terre, avec ses containers, vivra tout seul, c'est beaucoup mieux qu'avec ses actionnaires.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, enchaîner, enchaîner. C'est juste après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
Lavillier, le cœur du monde, vous êtes toujours à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4.
Alors je vous l'ai dit en introduction, on va un peu passer un certain nombre de sujets en revue là aujourd'hui. Et je disais revenir sur la grève des sans-papiers de Chronopost, Alfortville dans le Val-de-Marne, d'ailleurs aussi de l'entreprise DPD à Coudray-Monceau dans l'Essonne, puisque ces mouvements durent depuis plus d'un an. Chronopost, Alfortville, ça a fait un an début décembre, le 7 décembre, et DPD, c'est sensiblement pareil, donc plus d'un an de grève. Je pense que on mesure ce que ça veut dire, plus d'un an de piquets de grève, plus d'un an de manifestations à raison de en moyenne trois fois par semaine. Donc les camarades étaient venus au mois d'octobre à ce micro dans cette émission pour raconter leur grève, raconter aussi un petit bout de leur vie, hein, y compris raconter pour un certain nombre comment ils étaient arrivés en France, dans les conditions qu'on imagine, mais c'est toujours bien plus poignant quand c'est raconté par des personnes qui l'ont vécu, et puis qu'ils avaient aussi raconté dans quelles conditions Chronopost, et de fait la Poste, qui est ce qu'on appelle le donneur d'ordre, les faisait travailler, y compris les cachets quand il y avait une visite, par exemple, de l'inspection du travail. Alors voilà, on va pas refaire comme je disais tout à l'heure une émission maintenant sur ce sujet, sur cette grève, mais je pense que c'est important de dire que quand même ce mouvement continue, donc Chronopost dans le Val-de-Marne, DPD dans l'Essonne, avec donc plus d'un an, avec ces manifestations, hein, qui camarades en lutte avec le soutien notamment de Sud PTT et de Solidaires Val-de-Marne et Solidaires Essonne, et aussi du collectif des travailleurs sans papiers de Vitry. Voilà, ce mouvement continue, les camarades sont toujours dans la lutte, les camarades organisent des manifestations, je le disais, trois fois par semaine. Les camarades participent à d'autres manifestations aussi, plus sur des thèmes plus larges, notamment sur, bien évidemment, tout ce qui concerne les sans-papiers plus largement que leur grève, les luttes contre les projets racistes, et donc notamment contre le projet de loi Darmanin qui restreint encore les droits de ses camarades dits sans-papiers. Et donc voilà, ça continue, et je pense que c'est aussi un exemple de, alors bien évidemment, de lutte syndicale, de lutte sociale, un mouvement qui dure. Au moment où on parle, nous ici, pour les travailleurs avec papier, de la question des retraites et comment on fait pour démarrer une grève reconductible, c'est pas inintéressant quand même de rappeler qu'il y a des gens qui sont en grève depuis plus d'un an. Et je dis ça parce que c'est à la fois un exemple, mais c'est aussi avoir le souci que ces grévistes-là disparaissent pas dans le paysage syndical et social, parce que il y aura le mouvement sur les retraites. Alors ces camarades ont une vision très claire des choses, et ils participeront à ce mouvement, parce que ce mouvement interprofessionnel qui est un morceau de la lutte des classes, évidemment, les concerne. Mais à l'inverse, il faut pas non plus que les camarades avec papier oublient cette lutte qui existe déjà depuis plus d'un an. Et c'est une lutte concrète, c'est une action directe des travailleurs sur la question du racisme, des discriminations, aussi contre, je le disais, le projet de loi Darmanin. Et c'est de l'action directe des travailleurs, en fait, contre les patrons, les exploiteurs, puisque, je ne vais pas redévelopper aujourd'hui, mais c'est toute la question, bien évidemment, du De la sous-traitance qui permet de renforcer l'exploitation des travailleurs. Donc voilà, petit message un peu pour saluer nos camarades grévistes sans papier de Chronopost et de DPD. Et d'ailleurs, je pense qu'on aura, j'espère, l'occasion de les réinviter dans une future émission et, comme on se l'était dit au mois d'octobre, de les réinviter, je l'espère, pour qu'ils viennent nous expliquer comment ils auront gagné, enfin, leur papier et leur régularisation, comme on dit, comme s'il y avait besoin de régulariser les personnes humaines. Mais bon, comme si on pouvait être irrégulier en étant une personne humaine, mais en tout cas, c'est le terme qui est utilisé. Et évidemment, pour eux, concrètement, ça signifie beaucoup de choses. Deuxième chose, peut-être, dans l'actualité sociale, je vais donner peut-être deux, trois dates assez rapidement pour dire, il y a eu quelques tentatives de mobilisation sur la question des droits des chômeurs et des chômeuses, sur lesquelles de nouveaux reculs annoncés par le gouvernement ont pris effet ou vont prendre effet. Là aussi, il y a eu un recul un peu partiel du côté gouvernemental, mais ça ne remet pas en cause, bien évidemment, le fond de la question et les très dures attaques contre les droits des chômeurs et des chômeuses, et de fait, contre la vie des chômeurs et des chômeuses. Et donc, il y a des mobilisations qui continuent à se construire, avec notamment la perspective d'action un peu coordonnée des mouvements de chômeurs et de chômeuses et des organisations syndicales qui les soutiennent le 31 janvier en région parisienne, avec peut-être la perspective d'une manifestation nationale à Paris le 20 février. Mais tout ça reste évidemment à confirmer. Tout ça, là aussi, à vérifier avec l'évolution du mouvement social plus large dans la période. Et dernière chose, c'est à propos de la criminalisation, j'ai toujours eu du mal à le dire, des personnes mal logées, donc sur le droit au logement plus largement, où il y a, je pense que, enfin, ça a été là aussi dit sur ces antennes dans le cadre d'autres émissions, mais un projet de loi dit du nom de, donc du dépositaire, loi Kasbarian, qui passe devant le Sénat le 28 janvier. Donc il y aura un rassemblement au Sénat le 25 janvier à 11h, et une réunion publique avec les organisations syndicales, associatives, les collectifs divers, parties prenantes de cette lutte pour le droit au logement et contre la criminalisation des mal logés, à la Bourse du Travail de Paris, le 18 janvier à 19h.
Et Las Vegas, l'air devient irrespirable, l'atmosphère est dégueulasse, les saloperies considérables, la violence et la corruption soulignent la vulgarité de ces rires sans interruption qui leur servent d'identité. Entre Vichy et Las Vegas, les masques finissent par tomber. C'est encore au nom de la race qu'on brutalise l'humanité. Prennent pour des chiens, et les chiens se prennent pour des loups. C'est sous les champs des miliciens qu'ils mettent la pensée à genoux. La mégalo-publicitaire, narcinique et tout à l'ego, crée les illusions nécessaires au consentement du troupeau. Entre
entre Vichy et Las Vegas, les masques finissent par tomber. C'est encore au nom de la race qu'on brutalise l'humanité. Les banquiers ont mis en place leur pantin, un abominable, et comme ils mènent leur guerre de classe, ils se sentent invulnérables. Je ne veux pas de leur enfer, même des miettes seraient de trop. Maintenant, le paradis sur terre, c'est simplement ce qu'il me faut. Entre Vichy et Las Vegas, les masques finissent par tomber. C'est encore au nom de la race qu'on brutalise l'humanité.
Fred Alpi, entre Vichy et Las Vegas. Vous êtes à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4.
Alors, avant de passer à la guerre en Ukraine, je reviens sur la grève et les manifestations des sans-papiers de Chronopost et de DPD, parce que, pour dire, je le disais, il y a des manifestations à peu près 3 fois par semaine, et donc si vous voulez vous tenir au courant des prochains rendez-vous, le plus simple est de regardez sur le site internet ou le Facebook de l'Union départementale Solidaire Val-de-Marne. C'est repris bien évidemment sur d'autres sites, mais en tout cas celui-ci, puisque c'est une des organisations qui est au cœur de ce mouvement et du soutien aux camarades sans papier. Donc sur ce site, il y a régulièrement les annonces des prochaines manifestations qui sont, selon les cas, vers les préfectures, vers la direction de Chronopost, vers la direction de La Poste, vers le ministère, etc. etc. Donc sur la guerre en Ukraine, on en avait parlé pendant une émission complète au mois de novembre, et notamment à partir de l'expérience des convois syndicaux auxquels des camarades de l'Union syndicale avaient participé dans le cadre du réseau syndical international de solidarité et de lutte. C'est évidemment important, me semble-t-il, de continuer à en causer. Bon, chacun le sait, chacun et chacune le sait. Dans un peu plus d'un mois, le 24 février, ce sera les 1 an de cette guerre. On peut penser que le 24 février, ça sera toujours la guerre. Donc il y a bien évidemment un certain nombre d'initiatives qui symboliquement seront ciblées sur cette date du 24 février. Mais le soutien, évidemment, il continue en dehors des dates symboliques. Alors de soutien, peut-être faut-il repréciser de quel soutien on parle, puisque la question de la guerre, la question effectivement du militarisme, etc., etc., c'est un des sujets sur lequel le syndicalisme est directement concerné. Et pour ce qui nous concerne, on a des positions très claires, bien évidemment, sur la lutte contre la militarisation, la question des ventes d'armes, la question donc de la guerre, etc., etc. Mais il faut bien évidemment discuter de ces choses-là, comme de tous les sujets, au-delà des positions, là encore, j'allais dire, de commentateurs et de commentatrices. C'est comment on intervient avec parfois les possibilités de faire changer les choses très directement, parfois beaucoup moins de possibilités, mais en tout cas on essaye de le faire, et en tout cas de travailler avec les personnes les plus directement concernées par les sujets. Et donc c'est valable aussi sur le sujet de la guerre et sur le sujet de la guerre en Ukraine. Et c'est pour ça que, pour ce qui est de l'Union syndicale solidaire, dès le début de la guerre, on s'est tourné vers les syndicalistes des pays concernés, les syndicalistes en Ukraine, en Russie tant que possible, et en Biélorussie, en sachant que là, pour le coup, c'était de fait quasi impossible, y compris déjà au moment du début de la guerre. Sur la Biélorussie, d'ailleurs, je tiens à dire que il faut rappeler le rôle des militants et des militantes du syndicat biélorusse BKDP, qui, y compris indépendamment de la guerre, hein, depuis des années, menait une lutte acharnée et très difficile, dans des conditions de répression très fortes, contre le régime dictatorial en place dans ce pays. Et évidemment, la guerre, avec l'alignement de la Biélorussie sur le soutien au régime de Poutine, a accentué les choses et les a accentuées de manière dramatique, puisque à partir du mois d'avril, il y a eu de nombreuses arrestations de militants et de militantes du BKDP en Biélorussie, y compris, enfin, de militants et militantes aussi bien, j'allais dire, à l'échelon local que des responsables au niveau national. Et il y a eu donc au mois de décembre, un certain nombre de procès, si on peut appeler ça comme ça, qui ont amené à la condamnation à plusieurs années d'emprisonnement, de plusieurs responsables nationaux de cette organisation syndicale indépendante, qui continue à tenter de mener la bagarre en Biélorussie, et en sachant que, voilà, pour le dire très clairement, aujourd'hui, une partie des animateurs et animatrices de ces organisations syndicales sont donc en prison, et l'autre partie est en exil. Et c'est dans ces conditions, évidemment, que la lutte se mène. Et c'est pour ça que je disais que c'était bien plus difficile là d'agir, y compris en termes de solidarité concrète. Mais en tout cas, ne serait-ce que faire l'information sur la situation qu'ils et elles vivent est important. Sur la Russie, notre démarche, ça a été là aussi vis-à-vis des syndicalistes. Alors sur la plus grosse organisation syndicale du pays, je ne m'étends pas, puisque en fait elle s'est totalement alignée sur le régime de Poutine et soutient depuis le début ce qu'il a appelé la fameuse opération spéciale. Donc voilà, malheureusement, il n'y a pas beaucoup plus à dire de ce côté-là. Mais il y a une deuxième organisation syndicale, la KTR, qui d'ailleurs avait très courageusement pris position pour l'arrêt de la guerre vers la fin du mois de mars de l'an dernier, ce qui a valu d'ailleurs là aussi un certain nombre de mesures répressives, évidemment. Et les camarades de la KTR continuent un travail qui est particulièrement difficile, on s'en doute, dans les conditions qui sont celles du régime en place en Russie. Pour ce qui nous concerne, au-delà donc du soutien aux camarades de la KTR, en Russie, on est partie prenante du soutien à l'ensemble, notamment des réfractaires, à la mobilisation pour aller combattre en Ukraine, et donc toutes celles et tous ceux qui, effectivement, s'opposent au régime de Poutine. En Ukraine, on a donc eu un certain nombre de contacts avec des syndicalistes des deux organisations syndicales ukrainiennes, KVPU, FPU, d'un certain nombre de syndicats indépendants aussi, et ce qui nous a amené donc d'une part à lancer l'initiative qui a abouti à la mise en place d'une intersyndicale large en France avec là aussi, en fait, CFDT, CGT, FO, CGC, CFTC, UNSA, Solidaire et FSU, qui vient tout juste là, après des mois et des mois, donc, de mise en place, de collecte de matériel, d'appels à dons financiers, etc., etc., qui a fait partir, il y a maintenant quelques jours, un certain nombre de camions, donc, remplis de matériel divers pour ces deux organisations syndicales, et donc qui sont remis prochainement aux responsables nationaux de la KVPU et de la FPU. Et par ailleurs, l'Union syndicale solidaire s'est aussi impliquée d'emblée pour une action de solidarité internationale avec les camarades de syndicats ukrainiens, syndicats qu'on peut dire indépendants de lutte, en tout cas proches du syndicalisme que nous tentons de mettre en place et de pratiquer. Et dans le cadre du réseau syndical international de solidarité et de lutte, il y a eu déjà donc deux convois, l'un fin avril début mai, l'autre fin septembre début octobre, qui ont là aussi amené un certain nombre de matériel, de soutien donc en matériel, de soutien financier, mais qui ont surtout aussi permis des rencontres directes entre travailleurs, travailleuses, entre syndicalistes, avec les camarades d'Ukraine, et la délégation du réseau syndical international était composée de camarades d'organisations syndicales françaises, l'Union syndicale solidaire et le courant Émancipation, d'organisations brésiliennes, la CSP Con Lutas, d'organisations italiennes, ADL Cobas, d'une organisation polonaise IP et des Cobas de l'État espagnol. Et c'est important, cette dimension évidemment internationale et de discussion directe entre travailleurs, travailleuses, entre syndicalistes de différents pays, parce que ça permet effectivement là aussi d'adapter, j'allais dire, notre pratique syndicale vis-à-vis de cette guerre suite à l'invasion par l'armée russe de l'Ukraine, aux besoins, aux demandes, à ce que disent les syndicalistes concernés dans les pays directement touchés par cette guerre, et à commencer donc par l'Ukraine. Et c'est le sens des convois syndicaux sur lesquels on continue à travailler pour ce qui concerne Solidaire et le réseau syndical international de solidarité et de lutte. Par ailleurs, il y a d'ailleurs un petit bouquin aux éditions Sileps qui résume ce travail, donc qui s'appelle Ukraine, solidarité syndicale en temps de guerre, et donc avec les témoignages de camarades qui ont participé à ces convois du réseau syndical international, et l'interview d'un militant anarcho-syndicaliste ukrainien. Donc je le redis, une page de pub, Ukraine, solidarité syndicale en temps de guerre, par le réseau syndical international de solidarité et de lutte, aux éditions Sileps, c'est 5 € dans la collection coup pour coup. Sur l'Ukraine, donc, je parlais des dates symboliques autour du 24 février. Il y aura le 24 février au soir, à la Bourse du Travail de Paris, rue Charlot, un meeting organisé par le collectif français du réseau européen Solidarité avec l'Ukraine, dans lequel l'Union syndicale solidaire, CGT et FSU sont parties prenantes pour ce qui est des organisations syndicales. On aura l'occasion de le redire. Mais ce que j'annonce aussi là, c'est même là aussi, on aura l'occasion d'en reparler lors de l'émission du mois de février, c'est que le lendemain, le 25 février, alors pourquoi le lendemain? Parce qu'en fait, c'est le samedi, donc pour une manifestation, ça nous a paru plus approprié de reporter au 25 février. Pour le 25 février, il y aura donc une manifestation qui est appelée par l'association des Ukrainiens de France, et qui, avec le soutien, alors tout ça n'est pas encore formalisé puisque les réunions préparatoires, les réunions unitaires sont en cours, mais qui sera soutenue par beaucoup, je pense, d'organisations syndicales, associatives et partidaires. Manifestation donc qui devrait être de République à Bastille à 14h le samedi 25 février, sur un mot d'ordre qui est simple, hein, c'est alors pour la paix, parce qu'il faut pas oublier que notre combat c'est évidemment pour la paix, mais quelle paix, et pour une paix juste et durable, pour reprendre des termes qui sont appropriés et qui sont utilisés pour d'autres lieux dans le monde, pour une paix juste et durable en Ukraine. Le premier élément indispensable, c'est le retrait des troupes du régime de Poutine de toute l'Ukraine. Et donc, ce sera ça le mot d'ordre, évidemment, fédérateur, pour obtenir la paix, puisque la revendication, c'est évidemment pas la paix par l'écrasement de la résistance populaire ukrainienne, mais bien par le retrait des troupes du régime de Poutine. Et donc, manifestation le 25 février, après-midi, de République à Bastille. Puisque l'invasion du territoire ukrainien par les troupes de Poutine, de notre point de vue, a un caractère, évidemment, impérialisme, que ça renvoie à la question du colonialisme. J'en profite avant une nouvelle transition musicale. J'en profite pour faire là aussi une pré-annonce sur la question du salon anticolonial, qui se tiendra donc cette année les 25 et 26 mars à la Parole Errante à Montreuil. Là aussi donc notre organisation syndicale, l'Union syndicale solidaire, mais aussi notamment la CNT, sont partie prenante du collectif d'organisation chaque année de cet événement. Donc 25 et 26 mars, c'est un samedi et un dimanche. Sur les thèmes, donc là aussi, le programme sera affiné dans les semaines qui viennent, mais les thèmes qui seraient mis en avant autour de ce salon anticolonial des 25 et 26 mars, ce serait la question colonialisme et environnement, les violences policières et la question de l'impunité de ces violences policières, la question du secret défense qui est opposée aux demandes sur un certain nombre de sujets, la question bien évidemment, parce que là aussi c'est l'actualité malheureusement, question extrême droite, racisme, voilà. Voilà en gros les thèmes, là aussi un prolongement, puisque dans les thèmes il y a colonialisme et environnement, évidemment l'actualité là-dessus, une des actualités c'est la décision scandaleuse, les jugements qui ont été prononcés sur la question du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, donc deux actuelles colonies françaises, puisque donc le 2 janvier, par ailleurs, au palais de justice de Paris, c'est-à-dire au siège de l'État colonial pour ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique. Donc, deux juges d'instruction ont prononcé un non-lieu dans le scandale sanitaire de l'insecticide, là, du chlordécone, qui a empoisonné et qui continue d'ailleurs d'empoisonner un nombre considérable de Guadeloupéens, Guadeloupéennes et de Martiniquaises et de Martiniquais. Donc il y a eu un certain nombre de réactions, mais je pense que là aussi, le mouvement syndical est évidemment concerné sur les conditions de travail, les conditions de vie, la santé des travailleurs et travailleuses, mais ça renvoie là aussi à un traitement très colonial de cette affaire. Et pour en revenir au salon anticolonial, il sera prolongé comme cela se faisait les années précédentes, on peut dire avant le Covid, il sera prolongé par une semaine anticoloniale avec l'organisation d'un certain nombre d'initiatives prises par les organisations parties prenantes du salon. Pour ce qui est de l'Union syndicale solidaire, là aussi on y reviendra plus tard et plus précisément, mais on envisage un certain nombre de choses sur cette semaine, donc autour de 28, 29 et 30 décembre, sur la question justement du caractère colonial et impérialiste de la guerre en Ukraine, et en discutant de si on peut le faire avec un débat croisé entre les situations en Ukraine, en Palestine, au Kurdistan, etc. Ça nous paraît important que les milieux militants qui interviennent sur ces différents sujets se causent et échangent sur la question de la grève des sans-papiers, et puis probablement sur la question du colonialisme, j'allais dire le plus près de chez nous, un des plus près de chez nous, au Pays Basque, dans le cadre de l'État français et de l'État espagnol.
Construis dans ta tête une ville, dans la chaude torpeur d'un été, les robes de coton des filles, leurs tresses nattées de fleurs coupées. En riant, elles fuient les garçons, des jardins viennent des flonflons. Construis dans ta tête une ville, dans la chaude torpeur d'un été. Le soir aux terrasses, le vin brille, la nuit prend toute sérénité. Elle fait lever une rumeur, berce les cœurs, marque les heures. Dans les cheveux blonds d'une fille, la main qui caresse et s'arrête. On se dit non, c'est impossible. Et pourtant, oui, ça vient, c'est là. C'est gros, c'est noir, ça hurle, ça crache. C'est chenillé, armé, blindé. C'est surmonté d'un fort canon et de plusieurs gueules casquées. Ferme les yeux et vois la ville au matin blême et réprimé. Le sang qui passe du rouge au noir séchant sur les rues labourées. Maisons éventrées et fumantes, stupeur, colère, haine cachée. Ferme les yeux, entends la ville. D'abord elle pleure, puis se reprend et s'interroge pourquoi, comment. Qu'avons-nous fait, pourquoi ce viol? Et qui sont-ils tous ces truands? Un jour pavé, arbre coupé. Les gars, les filles, les vieux, les jeunes font une ronde qui rend fou. Tous les guignols achèvera qui ne comprennent vraiment pas. Le monde entier d'abord crédule en reste assis sur son petit cul. Et oui, ça y est, c'est arrivé. Les Cosaques ont été défaits. Construis dans ta tête une ville, dans la chaude torpeur d'un été. Faut jamais se réjouir trop tôt, les Cosaques reviendront bientôt. Et si demain c'était ta ville, mieux vaut ne dormir qu'à moitié. Et si demain c'était ta ville, mieux vaut ne dormir qu'à moitié.
François Béranger, Une Ville. Vous êtes toujours à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4.
Alors, on va parler un petit peu du service national universel. Je disais tout à l'heure, c'est un sujet particulièrement transverse, je pense, sur cette antenne d'ailleurs, mais c'est important que ça soit traité aussi dans une émission comme chronique syndicale, parce que ça concerne aussi le syndicalisme. Alors, ça concerne le syndicalisme, je vais y revenir rapidement, mais sur l'aspect remise en cause d'une partie des droits des travailleurs et travailleuses, mais ça concerne aussi le syndicalisme, de toute façon, sur la question plus globale de la militarisation, sur la question de la soumission, en tout cas de la volonté de soumission de la jeunesse à l'ordre établi, etc., etc. Ça aussi, ce sont des questions syndicales, évidemment, quand on essaye de pratiquer un syndicalisme qui a comme volonté la remise en cause de l'organisation de la société telle qu'elle est aujourd'hui, une rupture avec le capitalisme et la volonté d'émancipation sociale, individuelle et collective. Service national universel, donc je reviens pas sur ce que c'est dans le détail, hein, sur comment ça se passe, mais quand même pointer le fait que ça vise les jeunes de 15 à 17 ans. Accessoirement, ça signifie qu'on parle là de gens qui sont, d'un point de vue juridique, mineurs. Et donc, toute la question qui est quand même en suspens de comment un certain nombre de choses sont imposées, seraient imposées éventuellement à tous ces jeunes qui, par ailleurs, sont dits mineurs et donc sous l'autorité juridique, sous l'autorité parentale. Et c'est une question qui est par ailleurs complexe parce que, j'allais dire, elle est assez simple si on considère que, effectivement, cette notion mineur-majeur, plus de 18 ans, moins de 18 ans, est quelque chose de définitif, de non discutable, etc. Je rappelle simplement qu'il y a encore, alors certes, ça remonte à quelques dizaines d'années, mais c'est pas non plus un siècle, c'était pas 18 ans, c'était 21 ans, quoi. Donc, et pourquoi aujourd'hui on serait mineur à 18 ans et qu'on l'est pas à 18 ans et demi ou qu'on l'est pas à 17 ans et demi, quoi. Donc je pense que c'est un peu compliqué cette notion-là, mais en tout cas c'est une notion qu'il faut prendre en compte, y compris qui peut être utilisée d'ailleurs pour s'opposer à un certain nombre de dispositions par rapport à ces jeunes. Mais en tout cas, voilà ce qui caractérise ce projet, c'est, je disais, une opération de soumission de la jeunesse, hein, puisque évidemment il s'agit d'inculquer un esprit d'obéissance aux règles, un respect des normes telles qu'elles sont établies par le système en place. C'est aussi la question donc. Plus directement syndicale de la remise en cause de droits de travailleurs et travailleuses, puisque les jeunes qui seraient utilisés dans le cadre du service national universel seraient en partie pour remplacer des emplois qui sont aujourd'hui occupés par des personnes qui ont un salaire, une convention collective ou un statut, la possibilité de s'organiser syndicalement, des droits individuels et collectifs, tout ça n'existant pas dans le cadre du service national universel, il devient généralisé et obligatoire. Par ailleurs, le service national universel, c'est, on parlait tout à l'heure de la question des milliards par rapport au financement des retraites des travailleurs et des travailleuses. Et ben, le service national universel, c'est là aussi quelques milliards supplémentaires qui sont ainsi dépensés et qui, de notre point de vue, bien évidemment, ne correspondent absolument pas à un besoin collectif. Et dernier point, même si c'est pas le service militaire, le service national universel, effectivement, faut pas faire de parallèle trop rapide, c'est quand même là aussi un renforcement de la militarisation, puisque avec toute la question, enfin l'encadrement militaire déjà, et avec tout ce que ça veut dire comme conséquence sur les pratiques, l'encadrement militaire, la question de la levée du drapeau, les chants guerriers, l'uniforme, y compris les exercices du type parcours du combattant, raid, commando, etc., etc., contribuent effectivement à un renforcement de la militarisation, y compris sur l'esprit. On parlait tout à l'heure du colonialisme, et bien évidemment, renforcement de la militarisation, c'est aussi, ça participe aussi à banaliser la question coloniale, et notamment avec vis-à-vis des dernières colonies françaises. Et l'actualité du service national universel, si j'en recose là, c'est parce que il se dit que Macron devrait sous peu en annoncer la généralisation. Alors, c'est ce terme qui est utilisé, donc je ne sais pas, enfin, on n'est pas sûr que généralisation veuille dire caractère obligatoire pour tous. Ça y ressemble quand même beaucoup. Je ne sais pas s'il y aura des subtilités entre les deux termes, mais en tout cas, on est dans une phase où effectivement Macron semble vouloir faire ce qu'il avait pour le coup annoncé depuis son premier mandat, et rendre ce service national universel obligatoire. Alors depuis l'annonce du service national universel et les premières expériences, d'ailleurs en mentionnant au passage que chaque année, les objectifs en nombre de jeunes volontaires du service national universel que se fixe le gouvernement, chaque année, ces objectifs n'ont pas été remplis, hein, ce qui signifie quand même quelque chose, que par ailleurs, les statistiques indiquent qu'une majorité écrasante des jeunes dits volontaires sont des enfants de militaires, de gendarmes, de policiers, voilà, de professions de ce type-là. Donc ça aussi, c'est quand même une deuxième indication sur la question du volontariat. Mais donc, depuis la mise en place du service national universel, il y a un collectif qui s'est monté, dans lequel il y a un certain nombre d'organisations syndicales, associatives, de partis politiques, etc. Et de collectifs locaux aussi, contre le service national universel, qui entretient un peu une espèce de veille d'information, mobilisation, avec quelques initiatives. Mais bien évidemment, dans la mesure où il s'agit uniquement de volontariat, la question de la mobilisation massive est un peu plus compliquée, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour plein de raisons, il y a lieu de s'opposer au service national universel dès aujourd'hui, même s'il n'est pas obligatoire. Mais la possibilité que donc Macron annonce très rapidement cette généralisation, ce caractère obligatoire, va probablement amener à une nouvelle phase dans la mobilisation, et donc on sera amené, je l'espère, à rediscuter assez rapidement du collectif national contre le service national universel et des initiatives qui seront prises. Juste pour dire aussi que dans l'actualité quand même, le collectif justement a réagi relativement récemment à un certain nombre de prises de parole de responsables gouvernementaux, y compris d'ailleurs de Macron lui-même, qui a récemment déclaré, je crois que c'est fin décembre, « Je sais pouvoir compter sur les militaires et les anciens militaires pour faire face au défi de renforcer les forces morales de la nation, en particulier de la jeunesse. » Je ne m'étends pas, mais voilà, je pense, ce que disait le collectif non-SNU, et qu'on partage bien évidemment, puisqu'on est membre du collectif et largement à l'initiative sur la réaction qui a eu lieu, c'est que il y a quand même... parler de force morale... et confier l'aspect moral des choses aux militaires, il nous semble qu'il y a un petit hiatus sur le sujet. Mais bien évidemment, quand je dis hiatus, on sait que c'est pas de la maladresse, hein, c'est une volonté politique, c'est effectivement vouloir renforcer encore une fois le rôle de l'armée et de la militarisation dans la société.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curés, ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous diriger. Contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit par l'équipe de Pour en finir avec le travail. Vous êtes encore à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4.
Alors après, pour en finir avec le travail, ça va être pour en finir avec cette émission, avant de passer la main à l'émission suivante, je vais rapidement, donc je l'avais dit, évoquer deux, trois publications. Avant, là aussi, je l'avais annoncé, mais quelques mots sur la grève des contrôleurs et des contrôleuses SNCF. Alors je sais bien que c'est plus vraiment l'actualité, puisque... Encore une fois, au mois de décembre, ça a été là aussi dans les médias, parce que grève au moment de Noël, des jours de l'an éventuellement, etc. etc. Ça, ça en a pas mal discuté. Mais c'est pour revenir surtout sur un point, parce que bon, sur l'aspect syndical, y compris les questions que ça pose, il y a beaucoup été mis en avant le fait que cette grève avait été menée par donc un collectif national, donc... en dehors des syndicats, voilà. Donc, voilà, je souhaitais juste, et j'espère qu'on pourra y revenir d'ailleurs avec des camarades contrôleurs et contrôleuses à l'occasion d'une émission. Mais cette grève, en fait, effectivement, le mouvement a été lancé en partie par ce collectif national constitué de contrôleurs et de contrôleuses, dont une partie d'ailleurs était syndiquée dans diverses organisations, d'autres n'étaient pas syndiquées, mais collectif national qui, dès le mois d'octobre, en fait, avait demandé à rencontrer les fédérations syndicales. Il se trouve que parmi ces fédérations syndicales de la SNCF, Sudrail, CFDT et UNSA avaient accepté la rencontre. La fédération CGT n'avait pas souhaité rencontrer le collectif national, et qu'à l'issue de ces rencontres, donc l'UNSA s'est retiré du processus de discussion avec le collectif national, mais alors ça peut paraître d'ailleurs paradoxal que les deux organisations syndicales qui ont continué à travailler avec le collectif national, c'est Sudrail, donc membre de l'Union syndicale solidaire, Sudrail et la CFDT cheminots, et il y a eu un réel travail en fait en commun entre les organisations syndicales Sudrail, CFDT et le collectif national des contrôleurs et contrôleuses. Je pense que c'est important de le dire, et que y compris la question des appels à la grève, la question de l'acceptation ou non des propositions de la direction, puisqu'il y a eu un certain nombre de négociations, etc. pendant en fait pendant deux mois, hein, puisque ça a duré d'octobre jusqu'à fin décembre, cette affaire. Tout ça, du point de vue des organisations syndicales, en tout cas pour ce qui est de Sudrail, ça a été fait finalement avec le collectif national. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que je pense qu'il faut pas tomber dans deux pièges un peu autour de cette discussion. Le premier, c'est évidemment de considérer que il y a même pas de sujet, que le collectif national c'est un épiphénomène, ça a pas existé, etc. c'est des organisations syndicales qui représentent les travailleurs et travailleuses, et on n'en discute pas, et il y a que ça qui existe. C'est malheureusement le choix qu'a fait un peu la Fédération CGT des cheminots dans cette affaire. C'est pas la première fois. Bon, je m'étends pas sur le sujet. Si on reçoit un jour les camarades contrôleurs et contrôleuses, on aura le temps d'en discuter plus. Mais c'est un peu une habitude sur ce type de mouvement à la SNCF de la part de la CGT cheminots. Donc ça, c'est évidemment, c'est pas de notre point de vue une bonne solution. À l'inverse, ce qui a été un peu médiatiquement transmis, et c'est pas par hasard le côté les syndicats ont été débordés, c'est gna 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 gna. Ça vise en fait à affaiblir le mouvement syndical et à affaiblir y compris justement le mouvement syndical qui organise les luttes et qui y compris tient compte à un moment donné des choses qui peuvent exister et se décider en dehors de l'organisation syndicale. Mais l'organisation syndicale justement elle est vivante, ça veut dire qu'elle s'adapte effectivement à ce qui existe et qu'en l'occurrence pour ce qui est de Sudrail et de la CFDT Cheminots, il y a eu effectivement le travail en plein accord avec ce collectif national. Et à l'inverse, le collectif national n'était pas un collectif national anti-syndical, mais dont le souci était l'aboutissement des revendications. Et tout ça, donc, voilà, je fais très 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 vite, mais en tout cas, tout ça aboutit à des négociations donc successives qui n'ont amené à rien. Et puis, le rapport de force étant ce qu'il est, eh bien, après le week-end de Noël et avant celui du jour de l'an, effectivement, il y a eu des reculs très importants de la direction pour ce qui est la catégorie des contrôleurs et des contrôleuses. Alors, on peut évidemment discuter de l'aspect catégoriel des choses et pourquoi c'est limité à cette catégorie de cheminots et de cheminotes, etc., etc. Mais en tout cas, c'est une grève qui a été menée, c'est une grève qui a duré, qui a été organisée dans la durée, c'est une grève qui a abouti à des victoires, c'est une grève, et c'est important de le dire aussi, dont le patronat, et en l'occurrence c'est les directions locales de la SNCF, sont tout à fait conscientes des reculs qui ont été cédés aux grévistes, et des reculs à la fois matériels sur la question des salaires, des déroulements de carrière, etc., etc., mais aussi sur le fait d'avoir perdu, pour ce qui est du côté direction, cette grève, avec un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui localement dans les établissements de contrôleurs et de contrôleuses, dans le rapport de force qui change vis-à-vis de la direction, parce que la force collective de cette grève a permis effectivement d'imposer des choses à la direction. Et ça, je pense que largement au-delà des contrôleurs, des contrôleuses, largement au-delà de la SNCF, c'est important à faire comprendre et à faire savoir, et en tout cas et aussi à valoriser. Voilà. Avant de céder l'antenne, j'ai dit deux, trois informations sur des publications. D'une part, alors je vais commencer par la publicité pour l'Union syndicale solidaire, le numéro d'hiver 2022, donc numéro 21 des cahiers de réflexion des utopiques est paru. Le dossier a pour titre « Guerre, paix, impérialisme, désarmement, des questions syndicales ». Donc je pense que ça, on voit de quoi on veut parler à travers ce dossier. Donc on y retrouve, comme dans chaque numéro des Utopiques, pas mal d'articles, hein, avec là pour le coup un certain nombre de choses évidemment qui tournent autour de la guerre en Ukraine et de ce dont on a déjà parlé par rapport au soutien syndical à la résistance populaire ukrainienne, mais aussi sur la situation vis-à-vis par exemple de la société russe. On y aborde un certain nombre de choses autres, comme la question par exemple du rôle de l'OTAN contre le Kurdistan, la question d'un point de vue plus historique sur d'autres guerres coloniales, donc sur la guerre menée par Israël en Palestine, sur la question qui avait été une grève générale algérienne anticoloniale le 4 février, janvier-février 57, sur l'école des Amériques, donc au cœur des dictatures en Amérique du Sud dans les années 60, 70, 80, un certain nombre d'autres choses, l'Espagne 36, les milices ouvrières et la livraison d'armes à travers la révolution prolétarienne. Et y compris la question donc du désarmement, des reconversions, notamment des usines fabricants de l'armement, et cette question-là abordée par des camarades syndicalistes, y compris du secteur, parce que là aussi c'est important que les premiers et les premières concernées discutent de ce qui leur paraît possible de faire avancer sur cette question. Donc les Utopiques, numéro 21, et je l'ai dit dans les articles des Utopiques, il y a un article autour des débats qui avaient agité la révolution prolétarienne autour du soutien à la Révolution espagnole en 36, livraison d'armes par livraison d'armes, etc., etc. Et ça me permet de faire une transition avec le fait que la Révolution prolétarienne, qui est une revue qui paraît toujours, on est à son numéro 819 trimestriel et le numéro de décembre est donc paru. Bon, voilà, avec un certain nombre là aussi d'articles que je ne vais pas énumérer en totalité, mais on y parle de la solidarité avec les manifestants et les manifestantes en Iran. On y parle du syndicalisme dans la guerre en Ukraine. On y parle d'un groupe féministe mixte dans le 13e arrondissement de Paris entre 1900 et 1903. On y traite du parquage des vieux, pour reprendre les termes de l'article avec les guillemets qui vont avec. On y parle d'une stratégie de lutte dans la CGT avec un point d'interrogation, et ça renvoie aux discussions autour du prochain congrès de la CGT qui fera d'ailleurs l'objet là aussi d'articles dans le prochain numéro de la Révolution prolétarienne, donc je le redis, revue trimestrielle qui paraît, qui continue à paraître et qui d'ailleurs fêtera bientôt ses 100 ans. Et dernière chose que je voulais signaler, mais on aura l'occasion d'y revenir dans une autre émission sur cette antenne, c'est la publication récente d'un livre qui s'appelle Solidarnosc, combat pour l'autogestion autour de 1980-1981, donc avec un certain nombre d'articles qui retracent l'histoire et les débats autour de cette question de l'autogestion dans Solidarnosc, en Pologne dans les années 80-81. Bon, c'est un retour sur l'histoire, effectivement, autour de cette question de l'autogestion. La question aussi du soutien en France à Solidarnosc, y compris vu de différents courants politiques, syndicaux, etc. Donc, ce qui s'était fait à l'époque dans la CFDT, ce qui a existé dans la CGT malgré la position confédérale CGT de l'époque. Il y a un article d'un camarade du PCF qui explique les positions du PCF à l'époque, des camarades libertaires à l'époque organisés dans l'UTCL. Un camarade qu'on vous connaissez bien sur l'antenne de Radio Libertaire qui explique lui aussi son investissement à ce moment-là, et notamment à travers l'Union départementale CFDT des Yvelines, c'est Serge Aumônier, et quelques articles complémentaires, notamment un sur la poste, enfin les timbres en tout cas, édité par Solidarnosc, qui est voilà, une histoire, je pense, relativement méconnue et à connaître. Donc, combat pour l'autogestion, Solidarnosc, combat pour l'autogestion, c'est édité par Sileps, et je pense que c'est là aussi un outil syndical pour aujourd'hui. Voilà pour les chroniques syndicales animées par l'Union syndicale solidaire pour ce mois-ci, et donc rendez-vous pour ce qui nous concerne solidaire le deuxième samedi du mois de février, et pour chroniques syndicales samedi prochain, même heure, 11h30, 13h30.
On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres, Français contre étrangers, immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité, ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire ? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Yves Perra, Marseille, 4 janvier 2004.
Monsieur Gilou est chef du personnel, ou d'autres choses on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel, paraître utile, lui qui ne sert à rien. Il est connu dans toute l'entreprise, montré du doigt, désigné du menton. Sur son passage, on chuchote, on méprise, mais il est le chouchou du grand patron. Article 1, le chef ne sert à rien.
Vraiment rien.
Nota bene, il faut l'éliminer.
Éliminer.
La poursuivante ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. A-t-on jamais prêté de l'importance autrement que pour s'en débarrasser? Au grain de sable brisant la cadence, empêchant la machine d'avancer. De même au nom du fric, a-t-on jamais hésité une fois à dégraisser? L'effectif pourtant insuffisant, mais Monsieur Gilou n'est pas là pour bosser. Article 1, le chef ne sert à rien.
Vraiment rien.
Nota bene, il faut l'éliminer.
Éliminer.
En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. Il ne supporte pas la concurrence et se targue d'être dans son domaine. Une épée, un phare, une référence, de l'extrait pur de ressources humaines. Sans moi, dit-il, tout deviendrait bancal, l'édifice risquerait de chuter. À l'ordre branlant, je fournis la cale et l'indispensable inutilité. Article 1, le chef ne sert à rien.
Vraiment rien.
Nota bene, il faut l'éliminer.
Éliminer.
En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. Gens de labeur, salariés, tâcherons, à qui l'on a martelé le principe, qui dit, pour que le monde tourne rond, il faut suer à s'en sortir les tripes. Rompons avec ces tristes habitudes, Monsieur Gilou nous montre le chemin. Noyons l'exemple par la multitude, et tous unis ne servons plus à rien. Article 1, nous ne servons à rien. Nota bene, allons nous promener au fond des bois pendant notre excursion. Arrangeons-nous pour perdre le patron. Oh, oh, oh.
Ah, un accident de chasse.
Ça a du bon la tradition.
J'entends déjà crier à l'utopie, des hordes hurlantes aboyer au chaos. On me prédit la geôle, même pire. On me promet de me laisser K.O. Qu'importe, d'autres viendront après moi. Aussi, je vous invite en attendant. Ensemble, reprenons à pleine voix. Monsieur Gilou n'en a plus pour longtemps. Article 1, le chef ne sert à rien.
Vraiment rien.
Nota bene, il faut l'éliminer. Et quand le patron se sera fait l'affaire, on ira s'occuper des actionnaires. Monsieur Gilou est chef du personnel, ou d'autres choses on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel, paraître utile, lui qui ne sert à rien. À rien, à rien, à rien.